3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Le syndrome d'immunodéficience acquise, plus connu sous son acronyme SIDA, est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de cellules du système immunitaire par le virus de l'immunodéficience humaine, connu sous le nom de VIH. Les premiers signes de cette maladie, qui deviendra rapidement une épidémie mondiale, remontent à la fin des années 1970, lorsque des médecins de New York et de San Francisco s'apercevront que beaucoup de leurs patients homosexuels souffraient d'asthénie, de perte de poids et parfois même de formes rares et atypiques de cancer. Mais ce sera véritablement en 1981 que le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies d'Atlanta, le CDC, donnera un premier nom à la maladie qui sera alors connue sous le nom de gay pneumonia ou encore gay cancer ou GRID, Gay Related Immune Deficiency ou encore Gay Compromise Syndrome. Ces diverses appellations s'avéreront inappropriées dès que s'affirma l'universalité de la maladie et vers la fin de 1981 sera alors créé le terme AIDS ou SIDA aux États-Unis. Ce terme sera donné par le chercheur Bruce Vohler, mort lui-même d'une complication liée à cette maladie. Durant les années 1980, le sida se transformera en une pandémie. Du côté des célébrités s'étant impliquées dans la lutte contre cette maladie, on y retrouvera Elizabeth Taylor, qui deviendra alors la toute première actrice à s'impliquer dans la lutte contre le sida suite au décès de son ami, l'acteur Rock Hudson. Elle crée LEMFAR en 1985 et amassera alors plus de 50 millions de dollars pour la recherche contre ce virus mortel. Le 24 novembre 1991, Freddie Mercury meurt à l'âge de 45 ans, un jour après avoir révélé au public qu'il était porteur du VIH et atteint du sida. Le 20 avril 1992, les membres restants du groupe Queen organisent un concert et y invitent une pléiade d'artistes tels que David Bowie, Elton John, George Michael, Liza Minnelli, Guns N' Roses, Metallica et Robert Plant. L'argent récolté par le concert et par la vente des VHS et DVD sera alors reversé à la Fondation Mercury qui luttera contre le virus. Le VIH reste un problème majeur de santé publique de portée mondiale qui a entraîné jusqu'ici plus de 40,1 millions de décès. À la fin de 2021, on estimait environ à 38,4 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH à travers le monde entier. Donc, asseyez-vous devant votre téléviseur et préparez-vous à faire un voyage dans la dure réalité de cette maladie qui a causé la mort de tant de personnes à travers la planète, alors que je vous parlerai de deux films importants sortis en 1993 qui porteront sur ce sujet controversé, soit le long-métrage « And the Band Played On » qui montrera la découverte du virus, ainsi que « Philadelphia » qui, lui, nous montre à quel point la société se doit d'apprendre à vivre avec cette maladie grave et surtout d'accepter les personnes atteintes du virus sans sombrer alors dans une peur hystérique.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us and we extend a cordial welcome to you.
We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
We're happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice-cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing. They're so good.
You get more out of life when you go out to a movie.
So, let's be honest. Streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for, the movie starts. Or does it? The sad truth is, movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ticket. Or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater. Because together, we can keep the movie theater experience alive.
And now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
I'm scared to death. I just have this absurd determination to live. Don't you?
Is there a name yet for this disease?
The gay press calls it gay pneumonia or gay cancer, and straight press doesn't mention it at all.
We've been finding substantial evidence to suggest that one of the ways this disease may be transmitted is sexually.
Now, wait a minute. Look, all I have is skin cancer, which is not contagious, and you know it.
No one's accusing you of anything. We just need to know as much as we can.
You know, I adore doctors, but I must say, if it is an epidemic, this gay plague thing, it's your fault for not stopping it. It's not mine.
That's exactly what we're trying to do. And we need everybody's help. So if you could give me the names and addresses of all your lovers and start with the people on this list, please.
What? My friend, we're talking about thousands of men all over the world whose faces I cannot even remember, and you want names.
Why? Why this happened? You doctor, how you don't know?
I've asked Don to join us because for the last 3 years, he's been tracking hepatitis B virus in gay men. And before that, worked on the Ebola fever epidemic in Africa.
If I knew these blotches would turn purple, I'd have bought some bags to match. Here, look at my book, When I Was Still Human. Leave it to me to get some disease nobody ever heard of. Kaposi sarcoma. Even my doctor had to look it up. Nothing to worry about, he said. Usually happens to Italian men in their 60s who continue to live a normal life till they die of something else. Do I look like an Italian man in my 60s? Now I do. 160.
Now we at the CDC have found that the hepatitis B test is 88% effective in identifying patients with this disease.
Is the CDC seriously suggesting that the blood industry spend $100 million a year to use a test for the wrong disease because we've had a handful of transfusion fatalities and 8 dead hemophiliacs?
How many dead hemophiliacs do you need?
How many people have to die to make it cost efficient for you people to do something about it? 100? 1,000? Give us a number so we won't annoy you again until the amount of money you begin spending on lawsuits makes it more profitable for you to save people than to kill them.
And the Band Played On, ou Les Soldats de l'Espérance, est un drame qui a été distribué par HBO Picture le 11 septembre 1993. Ce film américain d'une durée de 141 minutes a coûté 8,7 millions de dollars à produire, mais comme il a été diffusé directement pour la télévision, il est impossible d'avoir le box-office. Cependant, je peux dire que plus de 12,2 millions de personnes étaient à l'écoute lors de la diffusion de la première. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le réalisateur canadien Rogers Spottiswoode, lui qui avait réalisé les films « Under Fire », Shoot to Kill et The Six Day. Au niveau de la production, on y retrouve les productrices américaines Sarah Pillsbury, elle qui avait produit Love Field, Immediate Family et Eight Men Out, ainsi que Midge Sanford, cette productrice qui avait travaillé sur River's Edge, The Love Letter et Open Window. Du côté de la scénarisation, ce sera le scénariste américain Arnold Schulman, lui qui avait travaillé sur A Chorus Line et Tucker, A Man and His Dream, qui a travaillé sur le scénario du film. Au niveau de la distribution, on y retrouve Matthew Modine, Alan Alda, Ian McKellen, Glenn Headley, Richard Mazur, Saul Rubinek, Lily Tomlin, Charles Martin Smith, B.D. Wong, Patrick Beauchaud, Nathalie Bay, Phil Collins, Richard Gere et Steve Martin. Les efforts accomplis par un groupe de chercheurs pour identifier l'origine et la nature du virus du sida. Né en Iowa en août 1951, le journaliste américain et écrivain Randy Schultz fut reconnu comme étant le premier journaliste ouvertement gay du San Francisco Chronicle. Il décida d'écrire son deuxième livre en carrière, qui sera alors intitulé « And the Band Played On », après avoir assisté à une cérémonie de remise de prix en 1983, où il devait recevoir une mention élogieuse pour sa couverture médiatique de la maladie du sida. L'œuvre littéraire sera au final un travail approfondi d'investigation journalistique, écrit sous la forme d'une chronologie englobant tous les événements qui ont façonné l'épidémie, présentés sous forme de résumés factuels séquentiels. Le livre, qui sera publié en 1987, sera alors acclamé par la critique et deviendra rapidement un best-seller, demeurant sur la liste des best-sellers du New York Times pendant plus de 5 semaines et sera traduit dans plus de 7 langues, en plus d'être nominé au National Book Award. Une société japonaise offrira alors plus $1 million pour faire l'histoire du patient zéro, mais Shift refusera alors l'offre, ne désirant pas se concentrer sur cet agent de bord canadien-français qui fut identifié par le Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis comme étant le centre d'un groupe précoce d'hommes qui ont contracté le sida et qui aurait permis sa propagation dans le monde entier. C'est alors que le producteur de télévision Aaron Spelling recevra d'un ami un exemplaire du livre et il se montra très intéressé à l'adapter. Spelling était un producteur très populaire à Hollywood, ce dernier ayant été responsable de la production dans les années 70 de séries populaires telles que SWAT, Charlie's Angels et Starsky et Hutch. Spelling ira rencontrer les exécutifs de la chaîne de télévision américaine ABC, avec qui il avait entretenu depuis longtemps une excellente relation d'affaires. Mais le réseau transféra alors le projet à un autre producteur, Edgar Cherrick. Lorsque les exécutifs de ABC rejetèrent le projet, Sherrick se tournera alors vers les exécutifs de NBC qui accepteront alors de produire une adaptation du livre en mini-série. Aaron Spelling sera alors de nouveau approché pour produire la dite mini-série. Cependant, des problèmes au niveau de l'écriture du scénario ainsi que des doutes du réseau quant à la controverse du sujet maintiendra le projet sur la glace pendant quelques années. Finalement, incapable de transposer le livre dans un concept de mini-série de 4 heures, qui aurait alors été diffusé durant 2 soirées séparées, ainsi que les mauvaises cotes d'écoute qu'obtiendra un film sur la vie de l'acteur Rock Hudson, décédé du sida en 1985 et diffusé sur la chaîne ABC en 90, qui coûtera plus d'un million de dollars en retrait publicitaire à cette chaîne, NBC annulera alors l'adaptation. C'est alors que la société HBO se montrera très intéressée par le projet. La compagnie de production était reconnue pour ses projets controversés, incluant le sitcom Dream On ou le film sur la pédophilie intitulé Judgment. Robert Cooper, président du HBO Worldwide Pictures, rencontrera alors Aaron Spelling et une entente fut alors signée pour la production d'un téléfilm. Rapidement, les exécutifs de la HBO enverront une copie du livre au scénariste Arnold Schulman pour que ce dernier s'occupe de l'écriture d'un nouveau scénario, offre qu'il acceptera rapidement. Par la suite, commencera la recherche d'un réalisateur. Le premier choix fut le metteur en scène Joel Schumacher, qui avait réalisé The Lost Boys à la fin des années 80, mais ce dernier voulait transformer le concept de téléfilm en simple documentaire. Le second choix sera Richard Pierce, réalisateur des films The Long Walk Home, Country et Leap of Faith, mais ce dernier voulait retirer tous les personnages gays du film et se concentrer uniquement sur les membres hétérosexuels de l'équipe de recherche. Finalement, le metteur en scène Roger Spottiswoode sera alors embauché, le Canadien venant tout juste de terminer Stop or My Mom Will Shoot avec Sylvester Stallone. Au niveau du scénario, plus d'une vingtaine de versions seront alors écrites par Schulman avant d'obtenir l'œuvre finale. Percevant And the Band Played On comme une histoire à enquête médicale, Schulman construira le récit autour des barrages rencontrés par les chercheurs dans leur quête pour identifier, puis prévenir et traiter le sida. La première ébauche sera alors envoyée à l'écrivain Randy Shields pour approbation. L'auteur renverra alors des pages de suggestions, créant ainsi un lien avec le scénariste et également avec le développement de l'histoire de l'adaptation de son livre, et ce, jusqu'à la toute dernière version du scénario. Alors que le scénario était encore en pleine réécriture, Spottiswoode découvrira que les exécutifs de la HBO ne donneraient pas le feu vert au film sans une vedette majeure. Alors qu'il participait à une collecte de fonds sur le sida à San Francisco, le réalisateur approchera l'un de ses bons amis, l'acteur Richard Gere, et lui demandera alors s'il était prêt à signer pour un rôle principal dans le projet. Malheureusement, Gere n'avait pas le temps pour un rôle principal, mais acceptera celui d'un rôle secondaire, une première alors à Hollywood. Suite à l'embauche de Gere, Spottiswoode approchera Matthew Modine pour le rôle principal. En moins d'une semaine, Modine signera sa participation, tout comme l'actrice Whoopi Goldberg. Une fois Gere, Modine et Goldberg signés, d'autres acteurs commencèrent à se porter volontaires pour avoir un rôle dans le projet. Ian McKellen, lui-même un défenseur des droits des homosexuels, obtiendra le rôle central du défenseur des droits des homosexuels, Bill Cross. Malheureusement, et ce juste avant le début du tournage, Whoopi Goldberg développera une infection respiratoire et devra abandonner le projet, cette dernière étant alors remplacée par l'actrice Lily Tomlin. Le tournage débutera en novembre 1992 dans la ville de San Francisco, en Californie, avec un budget de plus de 6 millions de dollars et se poursuivra jusqu'en décembre de cette même année. Tourné d'une façon réaliste et sombre par le metteur en scène d'expérience, le film terminera sa production avec un budget total de 8,7 millions de dollars, principalement dû à la participation de comédiens de renom tels que Steve Martin, Phil Collins, Angelica Huston, B.D. Wong et Glenn Headley. Mais c'est à ce moment que la relation entre les exécutifs d'HBO et Spottiswoode commenceront à se détériorer. En effet, alors que le film entrait en post-production, les exécutifs feront intervenir un superviseur afin de s'assurer que le produit final corresponde à leur vision et non à celle du réalisateur. La réaction de Spottiswoode sera alors sévère, le metteur en scène ne permettant pas à l'individu d'avoir accès à la salle de montage. Suite à cette action, les dirigeants d'HBO commencèrent à tenir des réunions de post-production avec les producteurs, mais sans la participation de Spottiswoode. Ce sera finalement un désaccord entre le désir de M. Spottiswoode de montrer le film au Festival de Cannes et le refus d'HBO d'accepter cette demande qui fera exploser la relation entre les deux parties. La question centrale de ce désaccord résidait dans le fait que les exécutifs de la HBO trouvaient que la communauté gay était représentée d'une façon sombre et que certains aspects du film, tels qu'ils étaient montés, perpétuaient certains stéréotypes négatifs qui rendaient le produit moins accessible pour les téléspectateurs hétérosexuels et homosexuels. On demandera alors à Spottiswoode de tourner du matériel supplémentaire plus positif et de remonter le film, ce à quoi le réalisateur s'objectera en envoyant une note à la presse accusant le réseau de censure. Face à cette action, les exécutifs d'HBO enverront alors un policier se rendre à l'endroit où le film était monté et en ressortir avec la copie originale 2 jours seulement avant la diffusion du long-métrage à Cannes. Spottiswoode sera alors remercié de ses services et, un mois plus tard, le réalisateur de documentaire Bill Couturi, qui avait produit un documentaire primé aux Oscars en 1989 sur le sida qui était intitulé « Common Thread », Stories from the Kilt, sera alors embauché pour retourner quelques séquences et recouper le film. Spottiswoode n'eut donc pas grand-chose à voir avec l'achèvement du film, mais verra son nom demeurer à titre de seul réalisateur du long-métrage. Avec beaucoup de difficultés, 6 ans de polémique, plusieurs versions de scénario et 4 réalisateurs, And the Band Played On sera présenté en grande première au Festival des films du monde de Montréal le 2 septembre 1993 avant d'être diffusé sur HBO le 11 septembre de cette même année. Le long-métrage sera ensuite présenté au Royaume-Uni, au Canada, en Espagne, en Allemagne, en Argentine, en Australie, en Italie, en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, au Danemark, en Nouvelle-Zélande ainsi qu'en Australie. Le film de HBO sera ensuite remonté pour s'adapter à un créneau horaire de 2 heures et sera diffusé sur NBC en 1994 avec un avertissement de discrétion parentale en raison de son sujet sensible. Avec l'arrivée de Couturi, certaines scènes seront enlevées de la version finale, telles qu'une scène dans un bain gay qui fut raccourcie et une scène dans laquelle un propriétaire de librairie explique l'utilisation de nitride d'amyle, un composé chimique utilisé pour intensifier l'expérience sexuelle. D'autres séquences style documentaire de représentants du gouvernement furent tournées par la suite, ces séquences étant entrecoupées tout au long du film. Pour équilibrer un personnage gay fort contre un personnage hétéro fort, de nouvelles scènes ont été ajoutées pour élargir le rôle de Bill Cross alors qu'il explique à un responsable de la santé et à un chercheur sur le sida le pourquoi beaucoup d'hommes homosexuels allaient dans les bains publics, tandis que certaines scènes mettant en vedette le personnage de Don Francis seront alors enlevées. Finalement, environ 25 minutes après le début du long-métrage, le personnage interprété par l'acteur Richard Gere regarde par la fenêtre de la chambre d'hôtel un défilé gay d'Halloween dans la rue en contrebas. À l'origine, cette scène comprenait des drag queens dans le défilé, mais ces scènes furent coupées, ne laissant que des hommes habillés en costume de squelette. D'ailleurs, bien que le nom du personnage de Richard Gere ne soit jamais révélé tout au long du film, il s'agit ici en réalité de Michael Bennett, un célèbre chorégraphe et créateur des pièces de Broadway A Chorus Line et Dreamgirls, qui décédera du sida en 1987. And the Band Played On remportera le prix spécial du jury au Festival du film du monde de Montréal en 1993, le prix du meilleur montage pour un film fait pour la télévision au American Cinema Editors Award en 1994, de la meilleure distribution pour un film fait pour la télévision au Artios Award en 1994, du meilleur film au GLAAD Media Awards ainsi qu'au Emmy Awards de 1994. Il remportera également aux Emmy Awards de 1994 les prix de la meilleure distribution et du meilleur montage pour une œuvre faite pour la télévision. Aux Cable Ace Awards de 1995, Ian McKellen remportera le prix pour le meilleur acteur de soutien pour une production télévisée, alors que Lois Freeman Fox remportera celui du meilleur montage. En 2007, And the Band Played On sera introduit au Hall of Fame des meilleures œuvres télévisuelles au Online Film and Television Association's Awards. Pendant que Randy Schultz écrivait son livre au milieu des années 80, celui-ci testera positif pour le VIH, mais insistera pour que son médecin ne lui communique pas les résultats tant que le livre qu'il écrivait n'était pas terminé, afin que cela n'affecte nullement son intégrité journalistique et son jugement. Le jour où il enverra son manuscrit final à son éditeur, il apprendra alors la triste nouvelle, Schultz décédant des complications du sida en 1994, à l'âge de 42 ans. Du côté des points positifs, eh bien, le style documentaire apporté ici par le réalisateur permet à cette histoire, se passant sur plusieurs années, de garder un rythme intéressant et poignant qui permet de conserver l'attention du spectateur qui se retrouvera alors hypnotisé par cette histoire tragique de l'humanité. La distribution est ici incroyable, tout comme les interprétations où des acteurs de grand nom se partagent l'écran sans grande prestation afin de ne pas éclipser l'importance de l'histoire. Le scénario réussit ici à bien adapter l'œuvre de plus de 600 pages de l'écrivain Randy Schultz et parvient à garder un certain attrait qui permet à cette histoire de garder son piquant. De plus, celui-ci prend la peine de bien montrer les différents personnages, permettant ainsi à l'auditoire de ne pas se perdre avec tous ces différents caractères. La mise en scène, elle, est faite tel un bon film catastrophe et réussit à traiter avec respect ce sujet ultra délicat. Au final, And the Band Played On s'est montré l'imbécilité du système gouvernemental et à quel point l'orgueil patriotique américain ainsi que celle de l'argent semble beaucoup plus importante que la vie humaine. De plus, le film reflète parfaitement la réaction humaine stupide face à une pandémie qui pourrait mener à sa disparition si elle ne change pas ses habitudes de vie. Mais du côté des points négatifs, bien le scénario est très épisodique, ce qui pourrait donner quelques difficultés à certaines personnes de bien suivre l'histoire, cette dernière se situant sur une période de plus de 5 ans. De plus, plusieurs personnes de l'auditoire pourraient être totalement perdues avec les différents termes médicaux et scientifiques utilisés dans cette histoire. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur américain Carter Burwell qui s'occupe ici de la trame sonore, lui qui avait réalisé la musique des films Blood Simple, California, Raising Arizona et Twilight. Je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore du film And the Band Played On. Thank you.
Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
What is it?
Say, what is it?
Hey, why, it's Buttercup. Popcorn and sweet cream butter, too hot popcorn. Mix it up, wrap it up, Buttercup is born.
It's delicious.
So nutritious.
It's a taste delight.
It's so munchy.
Crisp and crunchy.
You'll enjoy each bite. Eat butter-drenched Buttercup popcorn at its best.
Served in a king-size cup.
It beats all the rest.
Hi there, fans. Stand by for cool-off with Lion's Mane. New Supersonic Zoo, the big ice lolly with free picture cards. Hey, get this. New Super Seajet, a three-flavor knockout. And the first ice lolly specially for girls. It's fab. Unfasten your seatbelts, lolly lickers. Cool it with Lion's Mane. On sale now.
We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
Highline Incorporated is now represented by Wyant, Wheeler, Helaman, Tetlow, and Brown. And more specifically, Andrew Beckett.
Yes!
Bravo!
I sincerely appreciate your faith in my abilities.
Mr. Beckett!
How are you? What happened to your face?
I have AIDS.
Oh.
I'm seeking representation.
You want to sue Wyant, Wheeler, Helaman, Tetlow, and Brown?
I was diagnosed with AIDS 8 months ago during a bout with pneumonia.
What's that in your forehead, pal?
Andy, everyone in this room is your friend.
I misplaced an important complaint. That's their story.
We've been talking it over. Your future, that is. And we feel that because we respect you so much, we must be honest with you.
Excuse me. Am I being fired?
Would you accept a client if you were constantly thinking, I don't want this person to touch me?
I have a case.
I don't want them to even breathe on me.
If you don't want it for personal reasons.
Thank you. That's correct. I don't.
That's very disappointing.
Sir, wouldn't you be more comfortable in a research room?
No. Would it make you more comfortable?
Beckett, how you doing?
Counselor.
Did you find a lawyer?
There's going to be things said at the trial that are going to be hard for you to hear.
I want to know everything about his personal life. What deviant groups did he secretly belong to?
I didn't raise my kids to sit in the back of the bus.
Is Andrew Beckett the kind of lawyer who misplaces crucial documents?
An excellent lawyer.
Andrew Beckett is dying.
You were impressed with Andrew Beckett's work.
Andrew Beckett is angry.
What powerful force has caused him to change his mind?
And he wants someone to pay.
TriStar Pictures presents...
The law's been broken.
I just want what is fair, what is right.
You remember the law, don't you?
A Jonathan Demme picture.
So let's talk about what this case is really all about.
Did you fire Andrew Beckett? because he had AIDS.
The general public's hatred, our loathing, our fear.
In this courtroom, Mr. Miller, justice is blind to matters of sexual orientation.
We don't live in this courtroom, no, do we?
Tom Hanks.
I love the law.
Denzel Washington.
Are you gay?
Objection!
In a story about our lives.
Oh, Mom, today's a good day.
Our fears.
Andy brought AIDS into our offices.
And our humanity.
I hate this case.
Philadelphia.
How many lawyers you go to before you call me?
9.
Philadelphia, ou Philadelphie, est un drame juridique qui a été distribué par les studios TriStar Pictures le 22 décembre 1993. Ce film canadien et américain d'une durée de 126 minutes a coûté plus de 26 millions à produire et amassera plus de 206,7 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Jonathan Demme, ce réalisateur qui avait fait les films de Silence of the Lambs et Swing Shift. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve les producteurs américains Jonathan Demme, lui qui avait produit les films Something Wild, Beloved et Rachel Getting Married, ainsi que Edward Saxon, lui qui avait produit les films That Thing You Do et The Truth About Charlie. Au niveau de la scénarisation, c'est le scénariste américain Ronald L. Nisswarner qui sera choisi, lui qui avait écrit les scénarios des films Mrs. Soffle, Gross Anatomy et Love Hurts. Dans la distribution, on y retrouve l'acteur Tom Hanks, Denzel Washington, Jason Roberts, Mary Steenburgen, Antonio Banderas, Joanne Woodward, Robert W. Castle et Anne Dowd. Un avocat accepte de prendre une cause délicate dans laquelle un jeune avocat talentueux est renvoyé de l'importante firme où il travaillait après que ses patrons, pleinement satisfaits de son travail, apprennent qu'il est homosexuel et atteint du sida. Le réalisateur Jonathan Demme venait de remporter son Oscar pour le meilleur film de l'année pour The Silence of the Lambs en 1987 lorsqu'il entendra parler des causes de deux avocats, Jeffrey Bowers et Clarence King. Bowers était un avocat qui poursuivra le cabinet d'avocats Baker McKenzie pour licenciement abusif dans l'une des premières affaires de discrimination liées au sida, alors que Kane était un avocat pour Hyatt Legal Service qui avait été licencié après que son employeur ait découvert qu'il avait le sida. Ayant perdu de nombreux amis à cette maladie, Demme désirait à ce moment travailler sur une histoire qui pourrait atteindre les personnes qui craignaient ou se moquaient des personnes atteintes du sida. En 1988, la maison d'édition J.P. Putnam's Sons publiera un livre intitulé « At Risk ». Ce livre, écrit par l'auteur Alice Hoffman, raconte l'histoire d'une fillette de 11 ans qui contracte le sida à la suite d'une transfusion sanguine. Très controversé lors de sa publication, l'auteur de ce roman sur le sida verra les droits cinématographiques être rapidement acquis par les studios de la 20th Century Fox pour un montant non divulgué à ses chiffres qui prévoyait alors produire le tout premier long-métrage commercial traitant du sida. Il fut alors entendu à ce moment qu'Hoffman écrirait elle-même le scénario du long-métrage et que Scott Rudin s'occuperait de la production. Malheureusement, le projet n'arrivera pas à décoller et Rudin s'occupera de transférer les droits à la compagnie de production Orion Pictures. Cependant, lorsque le réalisateur Jonathan Demme sera officiellement engagé pour réaliser ce projet, Rudin quittera car Demme refusait alors de travailler avec le producteur qui avait pourtant travaillé avec lui sur The Silence of the Lambs. Par la suite, Demme approchera son protégé, le scénariste Ron Nisswarner, et lui demandera de travailler avec lui sur un scénario qui racontait l'histoire d'un avocat gay atteint du sida poursuivant son propre cabinet d'avocats pour licenciement abusif. Nisswarner sera inspiré par le projet en partie parce que son neveu de 18 ans, Kevin, avait récemment été diagnostiqué avec cette maladie. Kevin Nisswarner décédera en juin 1992 de complications liées à ce virus. Alice Hoffman travaillera alors avec Nisswarner comme conseillère, mais n'aura aucune mention à titre de scénariste sur la production. Il faudra plus de 2 ans de travail et 9 versions différentes avant d'obtenir une version finale du scénario. Mais au printemps de 1992, la compagnie Orion Pictures avait de sérieuses difficultés financières. C'est alors que les droits cinématographiques seront transférés à la compagnie TriStar Pictures, qui changera alors le titre du projet de At Risk à Probable Cause. Le studio de production t'entendra avec l'équipe de production pour un budget de plus de 25 millions de dollars, ce qui permettra alors à Demme de commencer à rechercher sa distribution. Andy Garcia obtiendra alors le rôle principal d'Andy Beckett, mais dut quitter en raison de conflits d'horaire. Il sera alors remplacé par l'acteur Daniel Day-Lewis, qui, à son tour, dut quitter lorsqu'un engagement précédent, soit Shakespeare in Love, reprendra son développement. Garcia reviendra brièvement sur le projet, mais sera finalement remplacé par l'acteur Tom Hanks. Bill Murray, William Hurt, Nick Nolte et Tim Robbins seront alors considérés pour le rôle de l'avocat Joe Miller avant que ne soit finalement choisi l'acteur Denzel Washington. Il est à noter que le rôle du père d'Andy Beckett, Bud Beckett, fut interprété par le cousin de Jonathan Demme, le révérend Robert Castle. De plus, l'ancien responsable du marketing de la maison de production Orion Pictures, Charles Glenn, fera ici ses débuts au cinéma comme acteur. Pour la préparation de son rôle, Tom Hanks lira une œuvre de l'écrivain et activiste homosexuel Paul Monette et travaillera avec 2 entraîneurs personnels pour perdre plus de 35 livres avant le début du tournage. Quant à l'actrice Mary Steenburgen, qui interprétera l'avocate de la défense, cette dernière ira rendre visite à un de ses amis en train de mourir du sida 2 jours avant le tournage. Durant la pré-production, le titre du film changera de nouveau pour People Like Us avant d'obtenir son titre final de Philadelphia. D'ailleurs, la ville de Philadelphie n'était pas le seul choix des cinéastes pour cette histoire, car les villes de New York, Boston, Chicago et Baltimore furent également considérées. Mais la ville américaine en Pennsylvanie fut finalement choisie car il en coûtait moins cher de tourner à cet endroit et qu'il s'agissait également d'un des premiers centres d'activisme contre le sida, la ville ayant créé très tôt un bureau spécial sur le sida relevant directement du maire. De plus, la ville rendra également disponible une véritable salle d'audience qui servira de plateau de tournage pour la plus grande partie de la production. Le tournage débutera le 21 octobre 1992. Les scènes furent tournées principalement dans l'ordre chronologique afin de permettre à Tom Hanks de suivre une trajectoire émotionnelle claire et surtout de lui permettre de perdre son poids de façon sécuritaire et ce jusqu'à la fin du tournage. L'hôtel de ville de Philadelphie, la bibliothèque de l'Université de Pennsylvanie, l'hôpital Mount Sinai, la clinique ActionAids, un loft d'architecte dans le sud de Philadelphie, l'arène sportive Spectrum et le cabinet d'avocats Messirov, Gelman, Jaffe, Kramer et Jameson serviront d'emplacement de tournage pour la production. Plusieurs personnalités homosexuelles célèbres apparaîtront dans la scène de soirée costumée, dont Quentin Crisp, l'avocat des droits des homosexuels Thomas B. Stoddard, l'auteur-compositeur-interprète Michael Kalin, ainsi que l'acteur Ron Vautier. Vautier faisait partie des 53 membres de la distribution, y compris plusieurs figurants, connus pour être porteurs du virus du sida. Pour Vautier, Demme s'arrangera pour avoir un remplaçant qui lui ressemblait au cas où ce dernier ne survivrait pas jusqu'à la fin du tournage. 43 des 53 membres de la distribution qui étaient atteints du sida, dont Vautier, sont décédés de la maladie depuis la fin de la production. Ce sera l'agence de service local ActionAids qui aidera à recruter des figurants, les producteurs se faisant un devoir d'employer des personnes atteintes du sida en raison des difficultés rencontrées par ces personnes pour se trouver un emploi. Le tournage prendra fin le 21 janvier 1993. Philadelphia portait alors le fardeau d'être le premier grand film à aborder le sujet délicat du sida et une approche conservatrice du matériel sera alors approchée au niveau de la campagne promotionnelle de la maison de production TriStar dans l'espoir d'attirer les cinéphiles grand public. D'ailleurs, Demme voulait que les personnages non familiarisés avec le sida voient son film. C'est la raison pour laquelle il pensera au chanteur Bruce Springsteen pour la chanson thème de son long métrage, croyant fermement que le chanteur amènerait un public large qui n'irait pas normalement voir un film sur un homosexuel mourant du sida. Le film et la chanson Streets of Philadelphia ont beaucoup contribué à accroître la sensibilisation au sida et à éliminer une partie de la stigmatisation de la maladie. De plus, Streets of Philadelphia est la deuxième chanson, la première étant Let the River Run de Carly Simon, qui apparaîtra dans Working Girl en 1988, à remporter les trois principaux prix pour meilleure chanson de l'année, soit aux Oscars, aux Golden Globes ainsi qu'aux Grammys. Bien que le gouvernement américain ait fait l'objet de vives critiques pour avoir négligé l'épidémie du sida depuis son apparition au début des années 80, une projection spéciale aura lieu à la Maison-Blanche à Washington le 27 novembre 1993 en présence du président Bill Clinton ainsi que Jonathan Demme, Ron Niswonner, Tom Hanks, Denzel Washington et plusieurs autres membres de la distribution et de l'équipe. La première mondiale aura lieu le 14 décembre 1993 à Los Angeles, en Californie. La projection bénéfice au Century Plaza Hotel aura permis de récolter plus de 250 000 $ pour l'organisation AIDS Project de Los Angeles. Une première à New York suivra le 16 décembre 1993, amassant plus de 200 000 $ pour la Fondation américaine pour la recherche sur le sida. Tristar recevra alors par la suite de nombreuses demandes de diverses organisations de lutte contre le sida pour organiser des projections spéciales de prestations. Le producteur Edward Saxon travaillera avec le réalisateur Jonathan Demme afin de choisir plus de 17 organisations allant des grandes opérations comme MFAR à des groupes plus petits comme Birch Services of Queens, New York, pour être les bénéficiaires de projections spéciales à travers les États-Unis. Philadelphia sera diffusée dans plus de 1245 salles nord-américaines et rapportera plus de 12,1 millions de $ durant son premier week-end. Trois mois plus tard, le chiffre d'affaires brut cumulé au box-office nord-américain s'élèvera à plus de 75 millions de $ et amassera plus de 107,5 millions de $ dans le reste du monde, obtenant ainsi la 12e place au box-office international de 1993. Le film amassera alors plusieurs prix pour sa qualité, notamment Tom Hanks qui remportera le prix du meilleur acteur aux Oscars, à l'événement 2020, aux Awards Circuit Community Awards, aux Golden Globe ainsi qu'aux MTV Awards. Le film amassera également des prix au niveau de la meilleure production aux événements Awards Circuit Community Awards, aux Golden Screen Awards et aux Golden Globe Awards, ainsi que sa musique, aux événements 2020 Awards, les Academy Awards, le ASCAP Films and Television Music Awards et aux Golden Globe Awards, aux Grammy Awards et finalement aux MTV Awards, tant au niveau instrumental qu'au niveau des chansons. Suite au succès de Philadelphia, le réalisateur Jonathan Demme sera inspiré pour produire un autre film lié au sujet du sida, soit le documentaire de 1994 « One Foot on a Banana Peel, The Other Foot in the Grave ». Ce sera en 1992 que Demme demandera à un ami proche, Juan Suarez Botas, qui mourait du sida, de se filmer lui-même ainsi que les autres patients du Dr. Paul Bellman alors qu'ils recevaient ensemble des traitements intraveineux quotidiens. Le documentaire fut inclus en supplément dans une édition spéciale DVD de Philadelphia en 2004. La cause de Clarence Kane se réglera en 1990 alors qu'un juge a statué qu'il avait été licencié à tort. Kane mourra deux mois plus tard. En 1994, peu de temps après la sortie du film, Scott Burr, un ancien avocat, poursuivra son ancien employeur pour l'avoir licencié illégalement après avoir découvert qu'il était séropositif. Comme les accusés du film, l'entreprise a affirmé l'avoir licencié pour incompétence sans connaître son état de santé. Les parties ont réglé le procès pour un montant non divulgué après trois semaines de procès. Burr a continué à pratiquer le droit jusqu'à sa mort en 2020. En 1994, la compagnie Three Star Pictures, le réalisateur Jonathan Demme, le scénariste Ron Nisswarner et les producteurs Edward Saxon et Scott Rudin furent poursuivis pour plus de 10 millions de dollars par la famille de Jeffrey Bowers, un avocat qui avait poursuivi le cabinet Baker & McKenzie pour discrimination peu avant sa mort du sida en septembre 1987. Selon les membres de la famille de Bowers, Scott Rudin avait alors conclu un accord verbal avec eux alors que le projet était encore en place chez Orion Pictures, promettant ainsi une compensation à Bowers pour l'utilisation de son histoire. L'accord verbal aurait été hérité par le studio TriStar lorsque les studios reprendront le projet d'Orion. Après 5 jours de délibération, les studios TriStar régleront hors cours avec la famille Bowers avec un règlement allant dans les 7 chiffres. Le réalisateur Jonathan Demme décédera à son domicile de Manhattan le 26 avril 2017 des complications d'un cancer de l'œsophage et d'une maladie cardiaque. Il était alors âgé de 73 ans. Du côté des points forts, eh bien, Tom Hanks est ici en pleine forme, à la tête d'une distribution impressionnante, tout comme Denzel Washington, dont l'humour et la dureté de son personnage sont très bien ajustés par le comédien. La réalisation de Demme, quoique très sobre, est humaine et nous démontre d'une façon percutante l'homophobie des Américains. D'ailleurs, Philadelphia démontre très bien la peur de l'humain face à un virus dont on ne savait peu de choses à l'époque et qui terrorisait la population mondiale. La séquence d'introduction avec la chanson « Streets of Philadelphia » nous montre une société qui vit sa vie de tous les jours, ce qui entraîne le spectateur rapidement dans le niveau personnel de l'histoire, tout en nous montrant la beauté de cette ville américaine où se situe notre histoire. Mais du côté des points négatifs, Philadelphia se sert de divers clichés afin de faire passer son message, ce qui donne quelquefois lieu à des scènes quelque peu inconfortables, dont cette séquence dans laquelle notre avocat agrippe par le collet un homosexuel qui lui a fait des avances. Bien que l'histoire soit bien menée par le réalisateur, le film comprend quelques longueurs qui pourraient ennuyer quelque peu certains spectateurs. Le développement de la maladie d'Andy Beckett est ici mal présenté, le personnage tombant rapidement très malade sans que l'on ne voie l'évolution de sa maladie ou la dégradation de la santé de Beckett. D'ailleurs, on n'explique en aucun moment comment le personnage de Miguel, ami de cœur d'Andy avec qui il est en couple, n'est pas, lui, atteint du sida, ayant probablement eu des relations corporelles avec notre personnage principal qui, lui, est porteur de ce virus meurtrier. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur Howard Shore, ce compositeur canadien qui avait travaillé sur les trames sonores des films The Fly, Big, la trilogie du Seigneur des Anneaux, The Lord of the Rings, ainsi que la trilogie de The Hobbit, qui réalise ici la trame instrumentale. Je vous fais écouter ici la musique thème du film Philadelphia. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film And the Band Played On 4. Moi, j'y vais avec un 3, un film dont l'histoire glisse très bien et qui a un certain intérêt pour l'auditoire et qui est surtout réalisé d'une main de maître. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film And the Band Played On très indicatif. J'y vais également avec un 14 ans pour le contenu mature du long métrage. Du côté de Philadelphia, eh bien, Mediafilm cote le film 4. Moi, j'y vais également avec une cote 3 pour Philadelphia. Une distribution incroyable et des très bons jeux de comédiens, bien qu'il y a une certaine longueur dans le long métrage. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. Moi, j'y vais avec un pour tous. Bien qu'il y a un contenu qui est mature, c'est quand même quelque chose qui se laisse bien écouter. Il n'y a pas vraiment de séquence qui pourrait déranger un jeune auditoire. Et c'est peut-être une occasion idéale pour les parents d'écouter ce film-là avec les enfants et de leur montrer les dangers de cette maladie. Du côté de la trame sonore, eh bien, And the Band Played On sera distribué en CD le 28 septembre 1993 sur l'étiquette Varese Saraband. Donc, il n'existe qu'une seule trame sonore pour le film. Du côté de Philadelphia, cependant, on a le droit à deux trames sonores. Il y a d'abord le CD qui est sorti le 4 janvier 1994 sous l'étiquette Epic. Et il y a également la musique instrumentale qui, elle, sera mise sur le marché le 25 janvier 1994, encore une fois, sous l'étiquette Epic Soundtrack. Du côté du DVD, eh bien, And the Band Played On se trouve uniquement en DVD. Présentement, je crois qu'il n'existe que la version anglaise, à moins que vous ayez sur le continent européen où là, vous pourriez peut-être mettre la main sur une édition française. Et du côté de Philadelphie, eh bien, Philadelphia qui est disponible en DVD, en Blu-ray et même en 4K, en français et en anglais. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez facilement mettre la main et ainsi compléter votre collection de DVD. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.